Amen. Et non pour pouvoir dominer d'autres peuples. Velo kede les chol velishtot velismoach. Et non pour les jouissances. Manger, boire et se distraire. Et là, kede shiyu pnuim batora vechochmata. Mais afin d'être disponible pour pouvoir se vouer à la vérité de la Torah et à sa sagesse. Velo yelahem nogesh umvatel. Et ils n'ont pas pensé qu'il y aurait, et il n'y aura pas dans une telle société, des exploiteurs ou des fainéants. Kedesh et Iskou, les Chayar Olamaba, ce qu'ils cherchaient, c'était une société où pouvoir étudier, vivre selon cette vérité étudiée, afin de mériter la vie du monde à venir. Kemosh et Be'arnoub et Ilkhot Shuva, comme nous l'avons expliqué dans un autre chapitre, dit le Maïmoni. Ou Be'oto Hazman. Et en ce temps-là, il n'y aura ni famine ni guerre. Et bien évidemment, ces deux réalités sont liées. Puisque, petite analyse du mot hébreu, milchama, la guerre, c'est la même racine que le mot de lechem, le pain. En fin de compte, on fait la guerre pour des raisons économiques. Et quand il y a la famine, il y a le risque de guerre. Velokina avec achrut, et non plus ni jalousie et rivalité. Jehatova tiye mushpahat arve. Il y aura fécondité de bien au pluriel. Vechol ha'ma'adanim metzuim karfa. Et toute chose délicieuse se trouvera comme on trouve aujourd'hui la poussière, aussi nombreuse. Je voudrais peut-être un peu expliquer cela. Il est évident que si tous les budgets de tous les États qui actuellement sont consacrés à affamer des gens, à leur faire la guerre, à des rivalités et à des guerres, étaient consacrés à l'aménagement de la planète, alors ce que décrit Maïmonide serait utopique dans le sens positif, je veux dire réalisable. Je crois que c'est bien évident. Il y a actuellement sur la planète une capacité de science et de technique que le monde n'a jamais vue, n'a jamais connue. Et qu'est-ce qui empêche que ce soit déjà le temps messianique? C'est le facteur moral qui est absent. C'est lui le tiers exclu. C'est-à-dire, s'il y avait effectivement, corollairement à la visée éthique des prophètes, cette recherche concrète du bonheur, ici c'est Maïmonide qui parle, ou comme nous l'avons entendu de Mizrahi hier soir, eh bien, ce serait à portée. Et effectivement, lorsque le Talmud discute, et combien devrait durer tout ce temps du commencement de la société politique qui mènerait au monde transfiguré, en fin de compte, on retient l'opinion qu'il suffit d'une génération. Il suffit de 40 ans. En termes talmudiques, je cite le Talmud, bien sûr. Là, ce n'est pas mon utopie, c'est celle d'une société entière, la société talmudique. Et pour aménager tout cela, et je continue, Veloïe, Esse, Kola, Olam, et le monde entier ne s'occuperait enfin que de l'essentiel. La Darat est Hachem Bilba, de connaître. Je ne traduis pas Dieu, parce que le mot de Hachem n'est pas le mot Dieu, celui qui est Dieu. L'être qui est la source de tout être. La connaissance, telle que les prophètes de la Bible ont entendu, qui n'est pas la connaissance philosophique à proprement parler, mais que des philosophes peuvent comprendre. Ulfichach, Yo Israël, Chachamim Gedolim. Alors là, Maïmonide s'envole, et alors Israël, ce sera des grands sages. Veyodim, Devarim, Astumim. Et connaissant les choses cachées, Yassigou Da'at Boram, ils atteindront la connaissance de leur Créateur, Kefi Koach Adam, au niveau des forces humaines. N'exagérons pas, dit Maïmonide, pas trop s'envoler. Genéma, ainsi qu'il est dit dans le prophète, Kimalea Aaret, Dea et Hashem, Kamaim, Layam, Mechasi. Car la terre sera emplie de connaissances de Dieu. Cette fois, je traduis Dieu, c'est plus simple. Kamaim layam mechassim. À la manière dont les eaux recouvrent la mer. Un des commentaires de ce verset a posé la question, mais les eaux, la mer, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Plus le fond de la mer est bas, plus il y a d'épaisseur d'eau. C'est-à-dire, plus l'homme est humble, et plus il a de connaissances de Dieu. Je voulais vous citer ce commentaire. Bien, voilà quel est ce projet de l'utopie messianique. Et je ne pense pas, si vous voulez, qu'il soit nécessaire de l'identifier en termes à proprement parler sociologiques, historiques, de la société d'Israël, israélien, mais c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte, en tant que témoignage que le messianisme juif, dès l'origine jusqu'à la fin, n'est pas l'utopie dans le sens négatif, le refuge, parce que la réalité est décevante, la recherche d'un optimisme pour ne pas être malade de pessimisme, seulement cela, mais bien évidemment la construction d'un projet historique. Je voulais surtout noter que, en ce cas, il est clair que le projet politique n'est pas celui, le projet ultime, il est le projet du commencement. Il n'est lui-même et en tant que tel que le véhicule de l'exigence de l'être vrai qui a été visé par les prophètes hébreux. Et je voudrais terminer, avant de vous donner la parole, par une citation d'une espèce de description des grandes étapes de ce qui est arrivé à l'histoire de l'humanité dans cette recherche, que je ne ferai pas sous forme d'étude talmudique stricte, ça nous prendrait trop de temps, mais simplement de façon allusive. Il s'agit d'un texte de Rish Lakish dans la cinquième page de la Maseret Brachot qui dit ceci, en se basant sur l'exégèse très minutieuse d'un verset des psaumes, mais que je laisserai un peu dans l'ombre, je le regrette, mais nous ne sommes pas en étude talmudique, il dit ceci, dans tous les cas, ce sont les forces de la bonne volonté qu'il faut mettre en œuvre pour réussir le projet de la moralité. Et pourquoi réussir le projet de la moralité? Eh bien, non pas par, par doctrine, par principe, parce qu'on a un tempérament moraliste ou puritain. Parce que, encore une fois, si cela a été suffisamment clair, si la clause de la moralité ne joue pas, tous les messianismes, toutes les utopies capotent. Je ne sais pas comment dire ça en français plus joli. Échouent. Et se transforme en barbarie, comme nous l'avons entendu dans la citation du Rav Kook. Alors, dans tous les cas, les forces de la bonne volonté, en principe, a priori, s'il y a échec, alors il faut faire appel aux forces de la connaissance. Pourquoi y a-t-il bonne volonté et échec quand même? C'est parce qu'on veut bien le bien plutôt que le mal, mais on ne sait pas où est le bien, où est le mal, on n'a pas la connaissance réelle de la véritable éthique. Alors il faut mettre l'accent sur les forces de la connaissance. Et puis voilà que, malgré cela, et les forces de la bonne volonté, et les forces de la connaissance, il y a quand même échec. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'espérance. Il manque la foi, dit ce texte du Talmud. On peut avoir une connaissance très aiguë de l'éthique et la bonne volonté, mais et cela échoue. Parce qu'on n'est pas suffisamment utopique, je dirais, d'après le sujet de ce soir. Il manque la foi. Et puis ça peut quand même échouer, dit ce texte du Talmud. Alors, le texte termine par la citation suivante. Et si tout échoue, cette foi que Dieu est un, et si Dieu est un, c'est possible. Si Dieu est un, j'ai pas dit unique, mais un, alors réalité et vérité ont le même logos. Alors, moralité et politique, en fin de compte, peuvent avoir la même loi. Il n'y a pas de dualisme irrémédiable. C'est ce monothéisme-là qui véhicule l'espérance de cet optimisme-là. Et on pourrait dire aussi l'inverse. Cette espérance-là, cet optimisme-là véhicule le monothéisme. Parce que s'il y a deux principes radicalement en dualisme, entre vérité et réalité, et donc entre théologie et morale, entre morale et politique de façon irrémédiable, il n'y a plus d'espérance. Et même avec l'espérance, ça pourrait échouer. Alors le Talmud, ces 4-5 lignes de Talmud se terminent par « Et si ça ne marche pas quand même, il y a eu la bonne volonté, il y a eu la connaissance, il y a eu l'espérance. » Alors qui se rappelle qu'il va mourir? Iskorlo yomamita. Le commentaire intervient, le commentaire de Rashi est dit, on aurait pu commencer par là. Si c'est la motivation la plus efficace, okay, que tout risque de finir, que la vie sur Terre risque de finir. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'homme a découvert qu'il n'est pas seulement mortel à l'échelle individuelle, mais qu'il pourrait être mortel à l'échelle de l'espèce. Alors qu'on commence par là. Il faudrait inverser l'ordre. Fais attention, tu risques de mourir. Alors c'est urgent. Espère, apprends et crois. Non, c'est bien cet ordre-là. Le point de chute, c'est... Je voudrais vous citer un commentaire kabbaliste sur ce texte du Talmud, et qui s'en sert pour décrire les grandes étapes de l'effort de l'histoire des civilisations dans ce problème. Et il y a d'abord eu la recherche de la bonne volonté. Et puis cela a échoué. Alors, la loi morale a été révélée. Et puis ça n'a pas suffi. Et ensuite, pendant longtemps, on ne connaissait plus de toutes ces espérances qu'un seul slogan, Dieu éteint. En particulier dans la société juive, même quand on ne connaissait pas la Torah, alors on savait au moins dire Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad. Et puis finalement, semble-t-il, nous sommes arrivés à la dernière étape. C'est qu'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de prise de conscience que l'utopie est réalisable à condition que la moralité retrouve sa place de critère essentiel et central, alors on risque de ne plus disposer que d'une seule aide. Et ce serait la crainte de la disparition de l'espèce humaine.
Merci. C'est maintenant vous qui avez la parole jusqu'à la fin des temps.
Pendant des millénaires, le rapport avec un assentiment intérieur. de la part de Dieu. Laisser aux nations du monde la conduite politique apparente, la pourpre du sang, et s'occuper uniquement de la moralité par ce qui est la conduite cachée de l'histoire, la Torah et l'histoire, pour aboutir à la mutation que suppose la mutation de l'être, en tout cas à l'homme véritable, est-ce que, dans cette hypothèse, la tradition juive n'a pas souhaité faire l'économie des approximations de l'utopie qui sont représentées par l'État, par le politique. Dans la tentative humaine politique juive contemporaine, le parfum dont parlera Foucault est-il véritablement ce réa miroir d'Hachem, cette odeur des sacrifices agréable?
Bien, il faudrait pour reprendre chaque terme, c'était très précis et très riche dans l'analyse, trop de temps. Je vais essayer de répondre très sobrement. Je crois qu'il y a là inévitablement une option de foi qui apparaît. Et je crains fort qu'il y ait aussi le risque d'un schisme. C'est-à-dire, ceux qui continueront dans la stratégie de Jacob pendant ces 2000 ans, et puis ceux qui prendront acte que décidément, et à l'échelle universelle, quelque chose s'est passé, que l'homme a commencé à être capable d'envisager qu'une société, et non pas seulement, encore une fois, le château intérieur, le jardin secret, puisse fonctionner non plus sur un projet de puissance, mais sur un projet moral. Je ne voudrais pas du tout employer un vocabulaire, on m'a souvent posé ces questions dans les cours de texte du matin, un vocabulaire de style comment, eschatologique. Pas du tout, je ne crois pas que ce devrait être l'objet ce soir. Je crois que là, il y a une option de foi. C'est-à-dire, parce que la messianité est nourrie de foi, et non pas seulement d'utopie. Quel que soit le contenu positif de la recherche, pleine de valeur, de la réalisation de telle ou telle utopie. Dans la foi, il y a plus. Il y a la certitude que c'est possible. Tant qu'il n'y avait pas trace de possibilité de penser qu'une société politique pouvait être basée sur un projet moral, alors il n'y avait pas la réalité objective. Mais dès qu'il y a trace, parfum, et à Zamirigia, Vekolatom, dès qu'on entend Nitzanim, Nirubares, dès qu'on voit les premiers bourgeons, alors la foi reprend le dessus. Et je crois que c'est dans cette direction-là que j'aurais tendance à répondre. On ne peut pas descendre dans le détail d'une discussion qui serait, pas anecdotique, mais qui serait idéologique finalement. Et je préfère dire cela à voix haute. Il y a un risque dans la société juive, un risque de schisme sur une option de foi, à partir des mêmes connaissances. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu, mais c'est ainsi que j'aurais tendance à répondre. Y a-t-il une autre question ?
Oui. Plus fort. J'avais cité la date de 1492 pour que vous avez dit le nouveau monde, et j'ai été frappé par la coïncidence également avec l'expulsion des villes d'Espagne, des déçus du peuple.
Et voulez-vous me rappeler qui a cité cette date? Je ne sais plus si c'était M. Mizrahi dans la salle. Dans la salle, oui, ça venait de ce côté alors. Oui, probablement. Écoutez, ben, c'est joli, c'est une coïncidence. Très joli comme coïncidence. Je ne crois pas qu'il y ait une signification. Bon, je voudrais... Nous sommes trop nombreux pour pouvoir entrer dans des considérations eschatologiques ou même symboliques. Parce que chacun a son vocabulaire, ses références, et ce serait un peu surréaliste. Mais enfin, en tout cas, comme coïncidence, c'est très joli.
Est-ce que
Et je voulais, vous l'avez sûrement compris, faire allusion à une morale positive, à une morale du bien, et pas à telle ou telle conception de la morale qui ne serait que la légalisation des mœurs et la régularisation des mœurs, bien entendu. Et c'est-à-dire, n'oublions pas que nous parlons d'une tradition qui ne peut être comprise qu'en se référant à sa source prophétique hébraïque. Et les prophètes hébreux sont lisibles, on peut les lire. Il faut les lire en hébreu, mais on peut les lire. Et le contenu est là. M. Méchonique a cité tout à l'heure, ce sont des convergences, le deuxième chapitre d'Isaïe, c'est celui auquel nous nous référons dans les textes du matin, en particulier à travers le Maharal. Il s'agit de cela, il s'agit de cette morale-là. On me pose souvent la question, un peu à votre manière, mais une analyse anthropologique élémentaire montre que chaque société a son projet moral. Le messianisme juif ne s'insère que dans le projet moral de la prophétie hébraïque et pas dans une toute autre éthique, bien entendu.
D'un autre côté, si je peux répondre, mais vous connaissez la réponse aussi bien que moi, ce n'est pas parce qu'il y a un projet ou une affirmation morale que, à côté, la politique est morale. Toute l'histoire montre très bien que, précisément, le dogme a toujours eu souci de se désolidariser de l'histoire pour pouvoir rester dogme. Alors, quel que soit, c'est pas la peine de prendre des exemples concrets, il vaudrait mieux pas, ça froisserait des gens. C'est le dualisme même entre le moral et le politique. Et c'est donc la négation même, d'une certaine façon, de l'utopie.
Il y a peut-être une dimension, mais cette dimension divine, telle qu'elle existe chez les Hébreux, chez les chrétiens, chez tout le monde, elle donne une base morale à toute société. Le fait d'utiliser la politique et la morale, ce n'est qu'une affaire d'il y a un siècle.
Non, je ne crois pas. Lisez les prophètes hébreux et les imprécations, les exhortations contre le pouvoir politique lorsque le pouvoir politique n'est que politique et pas uniment, mêmement, en même temps, moral. En particulier Isaïe, mais aussi Jérémie, Ézéchiel et tous les prophètes. Vous savez, on parle des petits prophètes, ce n'était pas des petits prophètes, comme on pourrait parler des grandes communautés, des petites communautés. Non, ce sont des petits prophètes parce qu'il y a peu de textes, mais c'était aussi des grands prophètes. Lisez tous les prophètes.
Oui. Après.
J'ai craint de, avec le niveau du débat, mais je voudrais avoir le compliment de Gérard Schkenazi sur les manifestations cliniques du messianisme juif. Et notamment, deux créations du messianisme juif, qui est l'Union soviétique, la religion de l'ordre, et l'État d'Israël, le sionisme. Je n'ai assisté à personne qu'à la fin du 19e siècle, sur un territoire assez limité, qui est la Biélorussie et l'Ukraine, mais des gens filmés qui ont cherché une solution à un certain groupe à penser au communisme. Et il a fait la révolution avec tout ce qui est celui, ce n'est pas une mystère pour personne que la plupart de l'idée de la révolution était juive, à l'exception des Lénine qui est réussi à la droite à l'encadre. Et les autres sont des sionistes. Et tout cela, ça provient d'un groupe qui avait marqué des choses, des scissions. Il y avait un groupe qui a pensé que la solution est à gauche, et en fait, à gauche, dans le communisme, et l'autre, dans les sionistes. Je voudrais vous entendre, enfin, tout ce qui est ça des suivis,
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain danger de l'utopie? Je m'excuse d'avoir amené ça à la politique, je veux dire, en partie, mais ce sont des faits.
Écoutez, ramener cela à la politique dans le sens strict, c'est légitime, c'est le sujet. L'idéologie se serait décalée. Et donc, vous me permettrez en tout cas de ne pas descendre au niveau du terrain de l'idéologie. Parce que finalement, toute utopie, tout regard utopiste, disons, a sa propre lecture du découpage de la réalité, et en particulier du découpage de la réalité historique. Pour que notre dialogue ponctuel maintenant soit fécond, il faudrait qu'il vienne, en fin de compte, d'une longue lecture du récit de l'histoire humaine depuis le premier homme, y compris les temps contemporains, tel que la Bible la raconte. Or, nous sommes obligés d'employer un vocabulaire qui est chargé de connotations des idéologies occidentales et des catégories sociologiques occidentales. Et c'est pourquoi nous risquons d'être gênés d'employer des mots qui n'ont pas le même sens. Alors, je vous dis tout de suite, en ce qui concerne ce que vous avez appelé le communisme, la Russie soviétique ou le soviétisme, je ne sais plus exactement quel terme vous avez dit, à partir de la Révolution d'Octobre, je suis assez incompétent, mais dans tous les cas contre. Et donc, ce n'est pas mon sujet. Je serais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire de celui du sionisme. Et alors là, je vais prendre simplement un petit exemple. Qui ne va pas à l'essentiel du projet sioniste, mais disons celui qui est le plus familier ou le plus utilisé, parfois d'ailleurs à tort, je m'en explique tout de suite. Et il est indéniable que chez les sionistes, il y a aussi des sionistes socialistes et puis des sionistes de la Torah. Et, mais malgré tout, du point de vue du projet, de la nécessité d'une société hébraïque en tant que premier pas de la réalisation messianique, il y a convergence entre les deux, indéniablement. Or, je prends donc un élément du problème, et je voudrais m'en tenir au niveau socio-politique, historique, et non pas idéologique, que je connais aussi, mais qui, je crois, serait dommage d'introduire dans notre vocabulaire ce soir. Eh bien, il y a eu une première tentative sur ce problème de donner un statut humain aux Juifs. En Occident. Il y a une première tentative, une première stratégie, disons. C'était celle de la Révolution française, l'émancipation. Elle a été modèle pour les sociétés occidentales. Et elle a pu être praticable, disons, pour les sociétés européennes occidentales, pour une raison qui ne frappe pas souvent. C'est parce qu'il y avait peu de Juifs dans les sociétés occidentales relativement au nombre numérique. Des habitants de ces pays, la France, l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne. Et alors, on pouvait penser comme praticable une solution de type, je ne sais plus comment on dit, j'ai oublié, j'allais dire statut des Juifs, mais... Pardon ? Non, c'est pas comme ça qu'on disait au temps de la Révolution française, mais vous avez compris, hein, pardon ? Émancipation sociale, civique, pardon, émancipation civique.
On parlait aussi de régénération.
Ça, dans certains ouvrages contemporains, effectivement, de ce temps, effectivement. Surtout un ouvrage d'un abbé qui parlait des Juifs polonais. Je ne sais pas si vous l'avez entre les mains. Et on a pu penser que ce serait une solution praticable, et donc on renverrait de nouveau au Messie de la fin des temps l'idée messianique, je veux dire l'idée surréaliste, irréelle, irréalisable, de ce que serait éventuellement Malchut HaMashiach, le royaume du Messie. Et nous plongeons dans un vocabulaire culturel chrétien pour lequel le slogan a été « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais cette solution-là, sur ce point précis de la question juive, de la question des Juifs, disons, n'était pas praticable en Europe centrale et en Europe orientale. Et c'est donc contemporain que, au fond, les sionistes politiques d'Europe centrale et d'Europe orientale, eh bien, ont tout simplement essayé d'adapter à l'identité juive en tant que telle quelque chose d'analogue à la solution de l'émancipation dans les pays occidentaux qui n'était pas praticable dans leur pays parce qu'il y avait et je n'aime pas du tout ces termes, mais c'est cela qu'on emploie dans ce vocabulaire, des masses juives. Beaucoup. Et l'histoire a montré effectivement que ce n'était pas praticable. Quelle que soit, si vous voulez, la générosité théorique de la constitution de l'Union soviétique, dans le principe de l'égalité des minorités nationales, l'histoire a montré que ce n'est pas praticable, et jusqu'à aujourd'hui. Et par conséquent, les Juifs se sont divisés en deux courants dans ces régions d'Europe centrale et d'Europe orientale, dans deux rêves. Le rêve socialiste, et en particulier le Bund. Et puis d'autre part, disons, le rêve sioniste. Mais ce rêve sioniste qui avait apparemment un point d'émergence dans un problème très précis, solution à l'antisémitisme, ce n'est qu'une apparence, a rejoint le rêve messianique du peuple juif, de l'histoire juive, qui s'appelle, lui, tout à fait autrement, le rassemblement des exilés, la sortie de l'exil, la fin de l'aliénation, non pas qui est entraînée par l'antisémitisme ou par la lutte des classes, etc., mais la fin de l'aliénation nue, pure et simple, d'être en exil. Et là, c'est à une toute autre dimension. Et peut-être cela suffit comme réponse, mais ce qui se passe entre-temps, c'est un phénomène extrêmement profond que je ne crois pas qu'on puisse diagnostiquer par les mots, qu'il faut vivre. Et là je ne peux que me borner à porter un témoignage. C'est qu'il y a 2000 ans, les Hébreux sont devenus les Juifs, et que de notre temps, les Juifs redeviennent les Hébreux. Et ce phénomène profond secoue l'humanité entière. Et on parle plus dans les journaux de ce qui se passe en Israël que de ce qui se passe en Russie soviétique, finalement. Je parle des journaux de la Russie soviétique elle-même. Et il y a là, si vous voulez, un élément massif de l'événement qui doit nous frapper. Alors, j'entends bien que ça ne peut pas être communiqué par des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Les Juifs redeviennent des Hébreux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'humanité le pressent, le ressent. Il se passe quelque chose d'analogue à ce phénomène incompréhensible que, en tout cas, à ma connaissance, aucun sociologue, historien, contemporain n'arrive même pas à définir. Et comment se fait-il que cette toute petite métamorphose en quantité de l'identité humaine contemporaine, il y a à peu près 3,5 millions, un peu plus de Juifs en Israël, le chiffre exact, vous ne le saurez jamais, c'est un secret militaire, secret public. Okay. Eh bien, ça secoue l'humanité entière. C'est donc bien, il se passe quelque chose, peut-être que nous, Juifs, sommes les moins bien placés à en apprécier cet impact. Les témoignages que nous avons d'autres sociétés, en particulier une espèce de maelstrom de la conscience chrétienne corollaire à cela, nous montrent peut-être que cela. Nous sommes concernés, centralement, peut-être c'est la raison pour laquelle nous ne percevons pas ce qui se passe. Les Juifs redeviennent les Hébreux. Et cela est entendu dans le monde entier, chacun à sa manière. Alors là, il faudrait revenir à la traduction de la Bible et à ce que dit le livre de l'Exode. C'est tellement analogue pour celui qui vit ce phénomène.
Oui, je ne me rappelle plus qui était le premier, je crois que c'est... Oui, je vous en prie.
Est-ce que dans le fait qu'il est dit dans un texte que ce sont les...
La possibilité de
n'est pas de supprimer le rachat, mais de lui supprimer les conditions dans lesquelles il peut faire l'époque. Est-ce que là, c'est de pas dans cette question une réponse fondamentale au passage du peuple juif de retour à l'État?
Écoutez, j'essaierai de répondre de la manière suivante. Ce dont parle la tradition juive en parlant du messianisme, je crois que l'humanité entière en ressent l'exigence sous peine de mort. Et personnellement, j'aurais peut-être là tendance à vous répondre à la manière de Michel Prince, de ce qu'il dirait. Et je ne sais pas s'il ne faut pas attendre effectivement une mutation morale, mais d'où viendrait-elle? En tout cas, j'essaierai de le dire de cette manière, comme un Israélien le ressent. Si l'humanité ne nous donne pas la paix à Jérusalem, la planète risque de sauter. Mais, un peu pour éclairer cela, et je citerai Elie Wiesel. Je l'ai entendu, il y a plusieurs années, dire ceci, et ça m'a beaucoup frappé, je vous le retransmets une fois de plus, j'ai dû le citer déjà. Il parlait de ce phénomène de librairie extraordinaire concernant tout ce qui est juif. Il suffit qu'un juif écrive un livre, ou que n'importe qui écrive un livre sur les juifs, et c'est un phénomène de librairie, ou un film, ou peu importe. Et alors, il y a déjà 10-15 ans, nous étions impressionnés de l'ampleur de ce phénomène. Lui, revenant d'Amérique, nous disait qu'en Amérique, ça avait encore des dimensions plus colossales. Alors, il avait une explication qui rejoint un peu cette préoccupation, qui est la suivante. L'humanité découvre subitement, rappelez-vous ma dernière citation du Talmud, qu'elle vit sous la menace de la disparition. Et en même temps, elle découvre un peuple qui a toujours vécu comme ça. Alors elle lui demande comment il a fait. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Ou bien, effectivement, c'est l'homme, par ses propres forces, qui assurera la mutation morale qui permettra le temps messianique, eschatologie positive. Ou bien il faudrait une mutation, mais d'où viendrait-elle? Alors là, ce sont des options de foi. Qu'est-ce que vous entendez par la Haggadah?
C'est-à-dire par les possibilités de gestion à un autre niveau des conditions mêmes de l'existence humaine. Et là, si vous voulez, j'ai fait un rapprochement par rapport à la synonymie du mot Haggadah, qui est d'une part le symbole qui se rattache à la symbolique de la traversée de la mer Rouge, et d'autre part qui est le contenu, tout le contenu de la Torah, c'est-à-dire ce au service de quoi?
Non, je ne crois pas. Ça passe pas par le sacré, ça passe par la moralité. Écoutez, ou bien vous dites la même chose que moi, ou bien je crois que je ne comprends pas. Voilà ce que je veux dire. C'est que l'aménagement, le réaménagement des conditions de vie, de telle sorte que l'être persévère dans son être, en fait je parle de l'être humain à la manière de Spinoza, dépend d'un facteur de moralité, purement et simplement. Et ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que c'est uniquement une opinion personnelle. Je ne perçois pas d'où viendrait le courage de la mutation morale des forces humaines elles-mêmes. Est-ce que ça viendrait de Moscou? Qui y croit? Est-ce que ça viendrait de Rome? Qui y croit? Ou bien on se borne à y croire? Est-ce que ça viendrait de New York? Est-ce que ça viendrait de Paris? Est-ce que de Riyad? Ou d'Alger? Ou de Tripoli? Qui y croit? Alors, peut-être, mais là c'est une option de foi. Peut-être ça viendra du ciel. Mais vous savez ce que dit le Talmud? En somprim alanes. On ne raisonne pas avec la clause du miracle. Ça, c'est une option de foi. Ce que je dis tout simplement, c'est que nous sommes, semble-t-il, devant une équation très claire, très précise. Ou bien la moralité prendra le dessus et les sciences et les techniques nous permettront d'aménager la Terre, ou bien l'eschatologie risque d'être catastrophique, mais là je m'arrête parce que ce n'est pas le sujet. Tout ce que je voulais mettre en évidence, c'est cela, c'est que l'épine dorsale, et relisez les prophètes, des conditions de réalisation de l'utopie messianique, c'est la moralité. Le contenu, nous sommes d'accord avec tous les utopistes. Le plus beau château, le plus beau jardin, le paradis terrestre, et pourquoi pas. Je crois que nous sommes à même d'envisager les conditions de praticabilité. Et il suffit de lire toutes ces longues pages surréalistes du 11e chapitre de Sanhédrin dans le Talmud, où on nous raconte que tout est possible et que finalement on arrivera peut-être même à guérir la mort. Aujourd'hui on ne sait pas guérir le rhume, mais si on s'y mettait, peut-être qu'on y arrivait, on y arriverait, etc. Bon, mais là on s'envole, c'est du surréalisme. Alors là je vous réponds, ne passez pas par la magie. Il s'agit de la dimension de la moralité.
Vous avez demandé la parole.
Rapport du judaïsme avec l'utopisme, du judaïsme en tant que communauté, en tant que monde sociologique. Il semble bien qu'il y a un moment, à partir de la Révolution française, où des juifs se mettent à fabriquer l'utopie, à construire des systèmes utopiques. Et ces systèmes utopiques n'ont pas beaucoup de rapport avec la pensée du traditionnel, qui s'inspire du millénarisme, du messianisme. Et ça apparaît à un moment où les juifs sont intégrés, sont émancipés, et font partie de la société et ne sont plus minorités politiques dissidentes par rapport à l'Occident, mais sont un groupe qui a trouvé sa place dans cette communauté européenne. À ce moment, les utopistes juifs, que ce soit les saint-simoniens, les supérialistes ou d'autres encore, ceux qui ont encore l'attitude des dissidences, des distances critiques par rapport à la société, ne trouvent plus dans la pensée juive, ni dans l'idéologie juive dominante confessionnelle, un refus de la civilisation majoritaire, de la majorité compacte, et trouvent dans l'utopie une façon d'exprimer une dissidence qui ne peut plus s'exprimer maintenant au niveau de la vie communautaire. Or, le sionisme apparaît comme un mouvement qui se veut dès le début anti-utopique.
Pardon, la phrase qui se veut.
Qui se veut dès le début anti-utopique. Il suffit de regarder les écrits de Hertz, de Lanzo, de Pinsker pour voir qu'il s'agit d'une rupture avec ce qui s'appelle l'utopie, le sionisme utopique du passé. Et les mouvements sionistes veulent opérer dans le monde juif ce que Marx veut faire par rapport au socialisme, le passage de l'utopie à la science, le passage qu'il considère la rêverie à la réalisation du projet dans l'ordre pratique. De là, c'est le caractère profondément anti-utopique qui va prendre le sionisme, qui serait à la fois un mouvement d'aventure intellectuelle, mais également un mouvement de refus de plonger dans une imagination, dans une construction du futur qui ne soit pas réalisable. Il y a bien entendu une dimension utopique dans le mouvement sioniste d'origine et de tout temps, mais le refus de la vision utopique du monde semble présider à la naissance du sionisme politique moderne qui serait l'inspiration scientifique. Et cela a des répercussions dans le langage des pays de nos jours. Et c'est à cela qui me semble un élément important. Par exemple, les points modernes, bien entendu, le mot utopia, qui est la traduction. Du livre de Thomas More, qui veut dire utopie à l'époque, est devenu une expression péjorative, d'une rhétorique creuse. Et dire à l'époque utopie, ça veut dire utopique, mais ça veut dire aussi donc, quelque chose de particulièrement creux, et d'une sorte d'imagination, d'une plongée dans les merveilleux, dans les fantastiques, et d'un isolement par rapport à la réalité.
On dirait plutôt Ashlaya que utopia, moi.
Par contre, les mots pragmatisme, les mots efficacité, un nombre de termes qui semblent privilégier un rapport concret à la réalité, sont considérés comme des termes particulièrement positifs dans le langage hébraïque moderne.
Il faut y ajouter une dimension d'humour. Par exemple, les postes israéliennes, les facteurs jouent aux facteurs. Mais en fait, vous nous avez fait un très long voyage, et aussi au niveau du langage. Je veux retenir deux points, un du début et un de la fin. Bien évidemment, à partir de l'émancipation, énormément de juifs ont continué à fonctionner comme juifs, mais en dehors de l'histoire juive. D'où ces utopies auxquelles tu as fait allusion, et qui ne se référaient pas du tout au contenu traditionnel hébraïque et traditionnel tout court, juif. Et puis, sur le deuxième point, je voudrais répéter que dans ce projet... Mais dans le projet messianique contemporain du rassemblement des exilés, de l'émergence d'une société hébraïque, d'une nation hébraïque qui est dans ses commencements, vous savez, 33 ans, comme diraient les médecins, dites 33, par rapport à 3700 ans d'histoire, c'est une seconde. Eh bien, il faut quand même avoir le sens des proportions. Et le projet politique n'est que le début, n'est pas le terme, n'est que le début. Bien sûr, un sioniste dit non-religieux nous dira « mais c'est le terme, c'est fini, on est arrivé ». Pas du tout. Rattaché au messianisme de l'histoire, et c'est pourquoi j'ai tenu à citer le Rav Kook, c'est le début de la construction de cette utopie. Et alors, je retiendrai simplement l'expression, c'est le refus de l'utopie dans le sens négatif, c'est-à-dire les rêveurs du ghetto. Vous connaissez, parce qu'on avait rêvé qu'en vue d'une réalisation, on était fiancé qu'en vue d'un mariage. Et là, vous vous rappelez du livre de Friedman, pour donner cela comme exemple, c'est George Friedman. Et lorsqu'il avait écrit son livre, Israël, fin du peuple juif, point d'interrogation, vous vous rappelez de cela. Après la première édition de son livre, il a fait un voyage en Israël, et j'ai eu le privilège de le rencontrer, c'était un homme très attachant. Et il voulait s'excuser en disant, mais vous savez, j'ai mis un point d'interrogation. Mais je le dis très gentiment, mais enlevez-le, votre point d'interrogation. Il est évident que la société hébraïque d'Israël a pour utopie d'être la fin de l'histoire juive. Mais vous comprenez, j'espère, dans quel sens je le dis. De la condition anormale, de la condition de rêveur du ghetto. Vous vous rappelez, qui était indispensable, nécessaire, ça a été notre abri de préservation, notre dimension de survie, mais c'était un sursis. Et vous vous rappelez du psaume messianique, Beshuv Hashem et Shivat Sion, Hainu Kecholmim. Et lorsque Dieu a ramené la captivité de Sion, nous étions là-bas en exil, nous étions des rêveurs. Pas nous nous sommes mis à rêver en arrivant.